admirable article 2. Le mal, en règle générale, correspond non explicitement à un échec, mais à une pseudo-finalité, celle d'une action en l'occurrence décidée sans qu'il soit tenu compte en amont de celle-ci, de ce qui est. Et ne pouvant se retenir de déboucher, non sur une défaite, étant l'œuvre avant tout, paradoxalement, d'un succès par définition inatteignable. Je sais bien qu'il est très agréable de rêver, mais seulement lorsque l'on dort, une fois réveillé, il est préférable, nos yeux alors ouverts, de se référer à cette forme d'exactitude alignée à ce que le réel exprime simplement de lui. Si vous prenez un lion, les triomphes que celui-ci pourra connaître ne dépasseront jamais sa condition initiale. Peu importe ses victoires, il restera le lion qu'il est. Alors que ce que nous réussissons nous transforme et impose, pour être parvenu à ses fins, une autre version de nous, qui pour être alléchante crée entre nous une certaine concurrence, comme ces consécrations humaines qui ne sont que des constructions chargées de valider nos croyances. Si vous prenez pour exemple le champion du monde du cyclisme, ce titre à lui seul démontre ce que nos croyances exigent, savoir une surenchère maximale pour ne pas laisser la place au doute. La réponse se veut à ce point écrasante qu'elle ne nous offre plus de nous interroger, à moins que vous ne facilitiez ce passage-là, car si vous vous arrêtez juste un peu sur cette qualification, disant qu'un athlète spécialisé dans le cyclisme est dit champion du monde, rapidement vous viendra à l'esprit qu'au sein de ce même monde, des millions d'êtres humains ne se sont jamais essayés au vélo et que ceux qui s'y sont risqués dans ces régions-là comme ailleurs n'ont peut-être pas eu l'occasion de faire de la compétition et parmi ceux-là, ceux qui en détenaient la possibilité n'en ont pas ressenti l'envie. Ce tour d'horizon effectué, le dit champion du monde, même s'il reste de façon indiscutable un champion, ne conservera plus à votre entendement l'envergure planétaire revendiquée. Évidemment, je n'ai rien contre cette catégorie de sportifs. Cette approche concerne tout ce qui est mis en évidence de la sorte, de façon à ce point amplifiée que ce qui est n'apparaît plus. C'est un peu comme si on accroissait la puissance d'un projecteur rendant invisible paradoxalement par l'usage d'une luminosité voulue extrême, ces détails spécifiques devant, pour les intégrer, vous ramener à ce qui est. Nos rêves, au sens propre du terme, à leur tour, nous éblouissent et nous usons des évidences contradictoires de ce même aveuglement pour nous convaincre que pour ne rien pouvoir apercevoir d'autre, ce que nous voyons sous cette forme incarne l'expression d'une réalité à ce point dominante qu'elle n'est pas discutable. C'est un peu comme si des croyants invétérés, cette fois d'ordre religieux, usaient de Notre-Dame pour évoluer en leur compagnie en son sein, oser un parallèle consistant à dire que pour ne pas pouvoir douter de l'existence de cette cathédrale, pour se retrouver entre ses murs, il était tout aussi impossible de douter de l'existence de Dieu. Ce rêve-là, comme tous les autres, bénéficiant par notre intermédiaire d'une espèce d'insertion dans le réel, ne se contentant pas de le représenter, mais parvenant par leur présence à inverser des rôles. Comme si Dieu était au devant de Notre-Dame, plus visible qu'elle, qu'à nouveau le rêve qu'il subodore détenait à l'égard de la réalité un genre d'ascendant somme toute logique aux esprits de certains, tellement que ce qui est, pour être, devait allégeance à ces mêmes supputations, comme si, dit autrement, le rêve, humainement parlant, permettait à partir de lui seul la réalité au nom d'un monopole de surcroît non reconnu comme tel.